J'ai vu qu'il commençait ciné-ado.
Oui.
C'est chouette.
Oui.
T'as toujours des surprises dans cette édition. C'est toujours un plaisir.
Je sais pas si on s'entend.
C'est là, oui.
Moi, j'ai bon là.
Oui, oui.
Et toi, Muriel?
Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vous ai.
We are going to see.
Let's go see.
So bon, ben j'espère que vous avez aimé le nouveau générique de Zoom & Co. Hein? Je ferai bien un petit tour de table. Annick, oh ben Annick, elle va en profiter d'ailleurs pour se représenter.
Oui, bonjour. Donc Annick du club Ciné MJC. Ah, je trouve que ce nouveau générique, il est très pop. Hein? Il est très bien.
Il est très bien.
Très rythmé, c'est très bien.
Muriel, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, j'aime beaucoup. On va dire un grand merci à Clara.
Ah oui, ouais, bien sûr.
Ah, c'est ouais. Vrai, ouais, notre service civique.
Hein. Oui.
Et alors, notre invité qui va se représenter à cette occasion, qu'est-ce qu'il en pense?
Pierre-Emmanuel Parer, président d'Aveyron Cinéma, bonjour. Très bon générique. Je n'ai pas reconnu les voix, naturellement.
Bon.
Mais très bien fait.
Bon, bah écoute, donc on peut le garder. Hein,
on peut le valider,
et,
oui.
Et persévérer.
Oh, tout à fait, on le valide, oui.
Alors aujourd'hui, notre émission, hein, maintenant, vous savez qu'on on vient vous voir, ou vous parler à l'oreille, vous chuchoter tous les 15 jours, hein, pour parler des événements cinéma de Millau. Alors en l'occurrence, cette fois-ci, ben, on a un événement particulier. Hein, il s'agit d'un festival.
Mmh, exact.
Et je pense que Muriel va nous en dire plus.
Bah, il s'agit du festival Les Mycéliades, qui est un festival national, hein, qui a lieu en ce moment même, puisque nous on est un petit peu sur la fin, dans 80 villes de France, et qui a pour thème la science-fiction. La science même et la fiction, plus précisément. Donc à chaque fois, ce sont des films de science-fiction accompagnés de diverses personnes. Nous, on a un astrophysicien et une ethnologue qui seront là à Millau.
C'est pas de la rigolade. Hein.
Non, c'est pas de la rigolade. Moi, je trouve que c'est un très joli festival. Et c'est un festival pour nous permettre de nous interroger aussi sur nous, sur notre monde, sur notre société. Cette année, il a pour thème, en fait, résilience. Donc, du coup, avec de nombreux films, il y avait de nombreux films proposés qui présentaient ce que serait l'effondrement. Et comment nous, petits êtres humains, nous pouvons nous sortir de cette affaire et comment on peut rebondir.
Ça montre un peu justement l'évolution des films de science-fiction qui au départ ne parlaient pas de ça. On parlait beaucoup d'invasion, d'extraterrestres et
exactement.
Tout ça.
Exactement.
Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a énormément de films de science-fiction qui sont justement portés sur la destruction de la planète, le survival instinct, tout ce genre
ça,
de choses.
Ça a totalement évolué.
Très politique maintenant.
Ouais. Exactement.
Ouais. C'est moins idyllique. Hein,
c'est moins idyllique.
Hein, cette perception du futur.
On peut même parler de Sirat, qui presque, c'est pas un film de science-fiction, mais
ça peut. Il voilà, y a quelque chose.
Il y a toujours cet élément de.
Il y a quelque chose.
Malheureusement, peut-être pas du tout en fait pour Sirat.
Non. Non.
Quel est, à votre avis, le premier film de science-fiction?
Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès.
Ah, bien merci, voilà. Il est trop fort.
Ouais.
1902, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Ouais. Parce que très tôt, finalement, le cinéma se rend compte du formidable terrain de jeu que peut être la science-fiction et l'imaginaire qu'on peut mettre. Et donc là, alors effectivement, celui-là n'était pas visé ni politique ni quoi que ce soit. Et c'était juste pour provoquer l'émerveillement des spectateurs. Donc après, effectivement, comme le dit Annick, ça évolue, la science-fiction. Et dès les années 20, ça devient plus politique.
Oui.
Dès les années 20, je peux vous citer Métropolis de Fritz Lang, par exemple. Ouais. Voilà, où le futur devient une gigantesque machine broyée par le progrès. Donc en fait, très rapidement, finalement, la science-fiction va interroger, va poser cette question centrale, le progrès bien fait pour l'humanité ou non. Donc ça arrive finalement très tôt dans les questionnements.
Et ça s'est poursuivi.
Eh bien, après, on a aussi, après la Seconde Guerre mondiale, où là aussi, on est dans des périodes avec la peur du nucléaire, plutôt ce genre de thème. L'invasion. Là arrive l'invasion de l'extraterrestre.
Tu vois, je pense à un film, le Docteur Folamour, c'est un film d'anticipation.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour Docteur Folamour? Ouais, quelque part, oui.
Bon, non mais... J'ai surpris
non, mais oui.
mes trois collègues.
Mais
en quelque sorte, oui. Oui,
en quelque sorte.
Une dystopie, on va dire, si tu veux. Donc, oui, c'est un peu ça.
Donc,
oui.
Dystopie, c'est pas science-fiction.
La dystopie, c'est un genre, finalement, oui. De la science-fiction. C'est imaginer des mondes catastrophiques.
Qui sont parallèles aux nôtres, disons, qui avancent un peu...
Un futur
voilà,
catastrophique.
Qui est différent, voilà, tout à fait.
Voilà. Donc, je sais, enfin...
Pierre-Emmanuel, il meurt d'envie de dire quelque chose, là, je le vois.
Après, on l'a dit.
Non, tout à fait d'accord. Non, simplement, je trouve que Docteur Folamour est un film qui est extrêmement ancré dans son actualité. C'est à la fois une dystopie, mais on ne peut pas dire qu'elle parle d'un futur lointain. On est dans une vraie inquiétude autour de la bombe.
Oui, c'est ça, oui. C'est la guerre froide.
C'est la guerre froide, donc, ouais. Effectivement, après, puis... On a aussi après la science-fiction avec version Kubrick qui devient plus philosophique, poétique avec 2001 l'Odyssée de l'espace.
Ouais, avec des technologies qui apparaissent.
Et des technologies.
Ce qui fait qu'on peut filmer des choses qu'on ne pouvait pas.
Putain, mais tout à fait.
Voilà. Il y a encore quelques années avant.
Et je crois que ça change aussi la science-fiction et l'approche de science-fiction. Si on pense à Avatar, par exemple, récemment, les projets techniques, les progrès techniques, à ce moment-là, ont changé totalement la vision et les possibilités qu'on peut faire au niveau des films de science-fiction. Donc, ça a ouvert
un horizon
des possibilités incroyables, oui, tout à fait.
Oui. Et puis, c'est rigolo aussi, parce qu'on a tous vu des films de science-fiction, je sais pas, qui ont été tournés dans les années 70, tout ça, qui se passent en 2020, et puis on y est.
Ah,
et
oui,
là, on se dit... c'est assez drôle.
C'est très drôle, parce qu'en plus, on les re-regarde. On était émerveillés à l'époque par la technologie qui avait été utilisée. Puis alors maintenant, on trouve ça totalement kitsch, hein, quoi. Les maquettes, peut-être, je crois, de la guerre des étoiles,
on
avait trouvé extraordinaire. Alors maintenant, c'est pas des savonnettes, mais c'est très bizarre.
Ben, tout a bougé. Et en fait, mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec finalement la science-fiction, c'est que quelque part, elle prédit pas le futur, elle est pas
elle ne parle
que de nous, de nos inquiétudes, et de l'homme comme ça, l'homme, la solitude finalement aussi de l'être humain dans cette espèce d'univers qui le dépasse et où on peut voir effectivement toutes ces inquiétudes, hein, quand les extraterrestres envahissent, quand le...
On va peut-être en parler.
Voilà, moi je trouve ça, du coup, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment intéressant.
Alors en plus, c'est assez drôle, parce qu'il y a des fois où la réalité est restée très très loin de ce qui avait été imaginé dans ces films, puis d'autres fois, on s'aperçoit qu'on est allé beaucoup plus vite que ce qui était...
Complètement.
Donc, prévoir l'avenir, hein, c'est... Bon.
Puis alors, aujourd'hui, où on a l'IA qui arrive et qui là, nous, pour l'instant, nous dépasse un peu tous aussi, hein.
Kubrick et son ordinateur, son nom. C'est
Hal.
Alors, Hal, est-ce qu'il était à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui? C'est même pas sûr, le pauvre. Il a pris un coup de vieux.
C'est même pas sûr, voilà. on est totalement dépassé. Donc, c'est intéressant. Ou, je sais pas, on a eu de l'impression. Moi, honnêtement, quand on a eu la fameuse épidémie de Covid, où je me suis dit, mais c'est des dystopies que j'ai déjà lues. On y est, voilà.
Et alors, la solution qu'on a trouvée à l'époque. Mais alors là, tout ce qu'on dit, on l'a vécu, hein? C'est-à-dire, on a aimé des films, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait, je ne sais pas, penser, ils ont changé notre vie.
Ils ont fait réfléchir,
Vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit d'un film de science-fiction que vous n'avez pas oublié?
Oui, alors pour moi, ça se passe... Alors moi qui ne suis pas du tout science-fiction,
ça, on j'ai peut, découvert... On, ça, on peut le dire. Hein.
Ouais, voilà, j'ai découvert, donc ça se passe en 1979, je suis à Los Angeles, et Ridley Scott vient de sortir son film Alien. Mm-hmm. Donc premier film science-fiction et mélange épouvante. Donc je suis là au Chinese Theater, qui est très connu, qui est sur Hollywood Boulevard, qui est un cinéma mythique. Il y a une foule incroyable. Et dans la salle, il y a une communion. C'est la première fois que j'ai senti une communion si forte entre le film et la foule qui se pressait et qui regardait, et donc le public. Il y avait des gens qui criaient, il y avait quelqu'un qui s'est évanoui. Enfin, il y avait une communion. C'est la première fois que j'ai ressenti dans un cinéma ce sentiment de vraiment de partager ce film avec un groupe de personnes, et j'ai vraiment, c'est là que ça m'a fait aimer le cinéma, je pense.
Ah, tu vois, le cinéma,
l'idée de partager un film avec un groupe de personnes qui étaient vraiment engagées dans le film, et c'était Alien, et bien sûr il y avait tous ces mouvements de... On va pas divulguer le truc non plus, hein, parce qu'on jamais qui ne l'a pas vu.
Il y en a pas beaucoup.
Hein. Ah là, il y a prescription. A
beaucoup, ouais. Enfin, on peut faire une enquête.
Mais c'est vrai que la foule, enfin, la salle était bondée. Et dehors, il y avait une file d'attente qui était incroyable. Et il y avait une attente en plus de ce film, parce que moi, je l'ai vu donc juste quand il est sorti.
Et
c'était incroyable comme tout le monde réagissait dans la salle. Et ça, c'était magnifique. Et c'est ça, le cinéma,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Mmh.
Ce partage d'émotions, quand tu vois quelque chose, pour moi, ça a changé mon regard du cinéma.
Un film de science-fiction, c'est tout à fait propice à ce partage.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a la peur, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur... Bon, il y a des images assez gore, on va dire. On soutient Sigourney Weaver. Il y a un peu de tout le mélange dans ce film, donc c'est...
Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez sauté dans votre siège quand
bien
vous
sûr.
Avez vu la fameuse scène où on découvre Alien.
La bestiole.
Quand elle sort. Je ne sais pas, aujourd'hui, il en faut beaucoup plus pour qu'on saute dans le siège, mais moi, à l'époque, là, j'ai entendu une frayeur là, dans la
salle.
Mais
les gens criaient, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui dans la salle. Enfin, qui a évanoui ou qui, je ne sais pas quoi, si elle faisait semblant, mais c'est vrai qu'il y avait des cris. Et donc, il y avait une fusion. En fait, du public. Et là, ça, c'est incroyable. J'ai revécu ça avec un autre film, mais récent, c'était Emilia Pérez. Et dans la salle, c'était pareil.
C'est vrai que c'est un film d'horreur, ça, c'est un fait.
Non, pas Emilia Pérez. Non, mais ce sentiment que tu partages quelque chose avec une communauté. Et ça, c'est important
pour
le cinéma.
Mais là, il y avait la chanson. Hein.
Il y avait tout.
Je sais pas. Muriel, ce qu'on raconte, là, ça va dans ce que tu pensais, dans ce que tu nous racontais.
Bon. Bah oui, ça va dans ce... Et puis, bah, voilà, Alien, bah, c'est pareil. Alien, c'est l'inconnu, quoi. Donc, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas et qui pourrait être potentiellement méchant.
Et Pierre-Emmanuel, j'ai l'impression qu'il a envie de nous parler d'un metteur en scène qu'on peut qualifier d'alien à l'époque où... Oui, il a commencé à tourner.
Un peu.
En fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs catégories. On pourrait dire qu'il y a deux catégories de films de science-fiction. Il y a les films qui construisent un monde à partir de décors en studio, et les films qui se déroulent dans notre univers et qui arrivent à montrer en quoi notre univers est déjà imprégné de science-fiction et d'étrangeté. C'est pour cela que je voulais parler de deux films d'une période que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui est La Nouvelle Vague, avec Alphaville de Jean-Luc Godard.
Voilà. Il a deviné de qui je voulais parler.
Alphaville, donc en fait un film futuriste qui se déroule dans une cité qui s'appelle donc Alphaville, qui est censée être à des années-lumière de la Terre, cité sur laquelle un personnage joué par Eddie Constantine est envoyé en mission, et il se retrouve en butte à un ordinateur qui s'appelle Alpha 60. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce film, c'est que les lieux qui sont choisis, le film est tourné, en fait, dans Paris, au niveau du périphérique, au niveau de la maison de la radio, enfin, dans des lieux et des villes nouvelles qui sont en train d'émerger aussi.
L'architecture brutaliste.
Voilà, exactement. Et à partir de là, Godard, grâce au travail sur le noir et blanc, sur la lumière, quelques passages aussi en négatif, puisqu'il y a carrément des passages en négatif à l'intérieur du film, arrive à nous montrer en quoi, à partir du milieu urbain, de l'environnement urbain qui est le nôtre, on peut tirer une histoire vers de la science-fiction pure. Il y a également un autre cinéaste qui, lui, est totalement inspiré par la science-fiction depuis son enfance, c'est Alain Resnais. On a souvent tendance à penser qu'Alain Resnais est un cinéaste très difficile, mais il a toujours été animé par l'esprit de la science-fiction. Et il a fait un très beau film en 69 qui s'appelle « Je t'aime, je t'aime », qui est une variante sur la machine à remonter le temps, le roman de Wells, hein, qui se déroule avec un personnage interprété par Claude Rich, personnage qui a tenté de se suicider, et à qui des savants proposent de revenir dans le passé à travers une machine qui est une sorte de gangue végétale. Et là aussi, ce qui est très beau dans le film, c'est toute l'étrangeté. À la limite, il y a plus d'étrangeté dans le milieu urbain qui est censé être celui du quotidien que dans la machine elle-même ou que dans les scènes où l'on revient dans le passé.
C'est tout un programme de ciné-club. Hein. Moi, j'en salive à l'avance. Je suis en train de regarder Annick.
Oui,
là, tu nous donnes des idées.
Tout à fait. Hein, ouais.
Parce que ça, c'est vraiment une relecture des films bien particulière, spécifique des films d'anticipation ou de science-fiction auxquels on ne pense pas spontanément.
Oui, voilà. Hein. Non, exactement.
Je vois.
J'étais là, je me disais, Alain est né.
Tant qu'à citer René, on pourrait citer Chris Marker, qui était un peu son complice.
Oui.
Chris Marker a réalisé La Jetée, que Terry Gilliam a utilisé pour son armée des 12 singes. Hein. La Jetée, c'est un court-métrage réalisé avec des photos essentiellement. Terry Gilliam l'a converti, l'a transformé en long métrage.
L'armée de 12 singes.
Voilà.
Ouais. On a l'impression d'être dans une émission d'anticipation, là, en fait.
C'est pas impossible.
Bon, mais alors, toi, Muriel, tu as parlé de science-fiction d'anticipation ton film, c'est
non, mais
le
alors
déclic.
Oui, mais peut-être c'est le déclic effectivement qui me fera dire mais ce genre-là, ça me plaît. Moi, j'étais un peu comme Annick, j'étais un petit peu réticente à la science-fiction, etc. J'ai commencé quand même par la littérature avec Barjavel, hein, tout bêtement. Et là, je me suis dit quand même c'est chouette. Mais là, j'étais très jeune hein, à cette époque-là. Et après, mon premier film, j'étais assez très jeune aussi, ça a été Star Wars. Voilà, et moi, Star Wars, j'ai adoré. Et là, je me suis dit qu'effectivement, en fait, cette science-fiction, donc avec ces vaisseaux spatiaux, etc. Et ce que tu disais justement, Didier, en fait, moi, c'est ce qui me plaît dans Star Wars, c'est que c'est pas un truc clinquant. Voilà. Moi, ce que j'adorais, c'est que le vaisseau, il soit tout pourri. Qu'on sent qu'il rafistole de temps en temps. Enfin, tout ne roule pas, quoi. Ils ont aussi, comme nous, on a des vieilles voitures, ils ont des vieux vaisseaux. Ils font preuve, ça nous parle complètement d'humanité. Il y a de l'humour, évidemment. C'est des moments très drôles.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour.
Oui, c'est très drôle.
D'ailleurs, il
oui.
y a des personnages qui sont restés.
Bah, c'est des
caractères pour toujours.
Bah là, il est, oui.
C'est pas Alien, Ford, quoi, tu vois.
Il est charismatique. Enfin voilà, c'est super. Et là, effectivement, à partir de là, j'ai commencé à me dire, en fait, je vais vous faire un aveu, je pensais que la science-fiction, je ne comprendrais rien, en fait, que ça serait tellement, ça serait complexe, et donc en fait, non, je me suis rendu compte que c'était un genre très simple, et qui, justement, ce que je disais dans mon introduction, en fait, ne parlait que de nous, en fait, que de...
Il y a beaucoup de portes, en fait, pour aborder la science-fiction, comme tu parlais du film de Resnais, on parle de Alien, on parle de... Il y a tellement de sortes,
bien sûr, avec les anticipations, avec tout
mais
ça.
Mais il y a les mythes aussi.
Et les
Il y a de la mythologie hein, dans Star Wars avec des personnages.
Mais bien sûr.
Le frère, le père,
Ah, il y a tout ça. Il y a cette histoire de famille, effectivement, qui est là. On a, ouais, on a tellement de choses. Et puis, le bien, le mal, c'est quand même très...
très biblique.
C'est biblique, oui.
C'est vrai, dans ce moment, il y a toujours toutes ces histoires-là. Oui. Ouais.
Pourquoi on bascule dans le mal, qu'est-ce qui peut nous faire basculer? Enfin, il y a quand même énormément de choses dans...
C'est les années, la fin des années 70.
70, ouais. C'est, oui. Ça, hein. C'est 70. Ouais. Là, on est dans les années 70.
Ouais. Tu vois, parce que c'est toi aussi, pareil, c'était 79, pareil. Oui. Et puis moi, le film que j'avais envie de vous présenter, c'est aussi la fin des années 70. Hein. Moi, c'est un film que vous connaissez tous. Hein, c'est Rencontre du troisième type.
Ah
hein.
Ben oui.
C'est même un petit peu avant, hein, parce que c'est un film où finalement il n'y a pas beaucoup de gadgets, sauf sur la fin. Hein. C'est le cinquième film de Spielberg. C'est la première fois qu'il s'amuse. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé à tourner le film. Moi, j'ai eu la même réaction qu'Annick. C'est que je me rappelle à Lyon, quand j'étais jeune étudiant, la queue devant les cinémas, la ferveur. J'ai pu voir le film dans une salle énorme où il y avait encore des rideaux. Et quand on a vu les rideaux s'ouvrir,
exactement.
La salle s'est tue et alors on était vraiment archi réceptif. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Spielberg aussi dans ce film, il rend hommage au cinéma français, hein, parce que un des savants, un des personnages principaux, c'est Truffaut, hein, qu'on voit déambuler à la recherche des traces des extraterrestres. Donc ça, alors en plus il parle en français. Dans le film, parce qu'il n'a jamais réussi à prononcer une phrase correctement en anglais. Et puis alors, le souvenir que j'ai vraiment du film, c'est sa musique, hein, parce que je crois que c'est le seul morceau que je sais jouer au piano, qui va peut-être dire que les extraterrestres ne sont pas très loin. Hein. C'est cinq notes, et c'est cinq notes qui ne nous quitteront jamais.
Écoutez, je reçois des informations maintenant. Écoutez.
Pour ceux qui ont vu le film, hein, vous avez les extraterrestres qui nous jouent de la musique.
Ouais.
Cet enfant-là qui est enlevé et qui revient parmi nous, qui comme ça, par transmission de pensée, se met à le jouer. Et puis Truffaut qui part en Inde et qui retrouve cette musique ethnique.
Mm.
Bon, c'est un grand moment.
Oui, hein? C'est vrai.
Bon.
Très bon film.
Hein? Voilà. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'ailleurs. Mais vraiment, ça l'emporte.
C'est un sentiment, en fait, quand on a vu ce film, il y a un sentiment de... C'est magique, en fait, ce film, je trouve. Il y a ça.
Il se peut qu'il y ait un peu de magie. Ouais. Bon, j'espère qu'on va avoir des films, alors, magiques, là, dans les...
Mad Max.
Dans les semaines, dans les semaines qui vont venir, non ? Hein, puisque là, on enchaîne toujours hein, une partie...
Oui, ben oui. Alors, il est temps de vous parler du coup des programmes des Mycéliades en particulier. Alors bon, Annick a commencé par la fin, du coup.
Oui, parce que sur grand écran, il faut le voir. C'est ce
ça,
film, c'est ça. C'est...
Mad Max. On vous propose Mad Max.
Le premier,
c'est effectivement qui date de 1982, Mad Max de George Miller. Donc effectivement, à voir sur grand écran, on est dans une Australie, sur des autoroutes désertes, il y a des gangs qui s'affrontent, et là,
les décors sont absolument magnifiques, hein, vraiment. Les véhicules sont... c'est tout un monde, en fait, qui s'affronte pour l'essence, pour je sais pas quoi. C'est mythique, ce film, je trouve.
Voilà, il y a des bons, il y a des méchants. C'est un peu violent, donc interdit au moins de 12 ans.
Ah ouais.
Ouais. Mais
ah oui, interdit au moins de 12
et
ans.
Oui, et alors je ne suis pas allée chercher, mais peut-être vous pourrez chercher après, parce que, mais c'est de source sûre, hein, celle qui, la personne qui me l'a dit me disait qu'en France, ça avait été même, il avait été diffusé à la base dans des cinémas porno.
Ah bon ?
Qu'il n'y avait que là qu'on voulait bien diffuser Mad Max.
Ouais, c'est peut-être
pour
vrai.
Pour
parce que
il y a des jeunes femmes dévêtues,
ouais.
Violence.
Donc voilà, je sais pas, il faudra aller regarder ça.
Il y a un autre film qui est un peu qui donne froid dans le dos, hein, que vous allez programmer de mémoire.
Soleil vert, tu veux dire ? Oui, alors Soleil vert le samedi. Donc effectivement, là on est sur un film qui est de 1974. Donc, on remonte, mais tellement, finalement, c'est pareil, toujours tellement actuel. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est à New York, ça se passe à New York en 2022. Donc, ça y est, on a dépassé, on l'a dépassé. Et là, ben, après une grande catastrophe mondiale, plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources. Donc, évidemment, seuls les riches peuvent manger. Et quant aux autres, eh ben, ils sont nourris par une espèce de bouillie synthétique. Et voilà.
On ne va pas révéler comment ça...
Voilà, non, on ne finit pas. Voilà, donc c'est un film relativement pessimiste quand même. Hein. Là, on est vraiment dans le côté effondrement. Hein. Mais justement, pour contrebalancer ça, on aura l'intervention de Jack Manon, qui est une ethnologue... Et qui a pas mal travaillé sur et parlé. Elle a une chaîne hein, YouTube, vous pouvez les retrouver, qui s'appelle Les Ethnochroniques, et qui est très intéressante. Hein, on y trouve pas mal de choses. Et elle a notamment pas mal étudié toutes les civilisations qui ont disparu. Ou alors les civilisations voilà, qui se sont relevées après. Enfin voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a Oblivion. Alors là, on est dans du pareil, dans du vrai film aussi de science-fiction. Et ça part toujours très mal, hein, ça part toujours très mal, puisque la Terre, là aussi, a été détruite par des forces extraterrestres maléfiques, hein, ennemies. Hein. Et là, il y a un homme qui protège encore les dernières ressources et il répare les drones et il fait un peu la sécurité. Et un vaisseau va s'écraser dedans une belle inconnue. Tout cela va être remis en question. Des souvenirs remontent, etc. Et pour discuter après, cette fois-ci, nous avons le point de vue d'un astrophysicien qui s'appelle Sébastien Carassou, qui lui aussi, hein, il a une chaîne qui s'appelle, je crois, Sense of Wonder. Vous pouvez aussi retrouver pas mal de ses podcasts sur Radio France.
D'accord.
Ouais. Je sais pas honnêtement si c'est sur France Culture ou France Inter, mais il y a pas mal de podcasts hein, de lui. Hein, c'est... c'est quelqu'un qui est capable de nous parler autant de trous extraterrestres, de fusion nucléaire, de guerre spatiale. Et là, ben là, ça va être de la fin des temps au renouveau, son thème. Voilà.
Bon. Et, bah, c'est vraiment tout un
programme. Tout un programme. Hein. Et un petit cinéphilo qui sera beaucoup plus léger aussi.
Sur les dinos, non ?
Ah non, ça, c'est pas sur les dinosaures, ça, c'est pour les enfants. Oui. Ça, c'est pour les enfants.
La philosophie des dinosaures.
Non, mais... Il y aura sur les dinos, effectivement, il y a le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Mmh. Et là, on a concocté un petit quiz bien sympathique pour les enfants, pour savoir s'ils sont au point sur les dinos. Et le cinéphilo, il est sur un film plus récent, là, puisqu'il vient de sortir, qui s'appelle Amour Apocalypse. Mmh. Et qui est super. Oh, c'est déjà la fin.
Ouais, je voulais juste parler d'un film que tu as décidé de projeter et je voulais attirer l'attention. C'est sur l'un des deux frères Safdie. Alors, il n'est pas forcément très connu, hein, ce metteur en scène, mais enfin, quand ils étaient tous ensemble, c'était très connu. Il avait fait deux films. Ils ont fait Good Time. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez. Vous n'avez peut-être pas vu, il me semble, quand je vous regarde.
Non.
Film fantastique. Et Uncut Gene, qui est aussi, qui est aussi excellent. Hein. Et alors, donc là, ils sortent un film qui s'appelle Marty Supreme, avec Timothée Chalamet.
Oui.
Alors, c'est pas Dune du tout, puisque c'est un joueur de ping-pong. Mais je pense que c'est un film excellent.
Ah, visiblement, il est très
qui
attendu.
Qui va être programmé
hein. Oui, le 18, oui. Là, partira en sortie nationale. Quand
d'accord, voilà. Dans le 18 février.
Ouais. Bon, okay. Ben on va dire au revoir. Hein, là.
Ben, au revoir,
je
pense, oui. Hein. Au revoir
je vois le temps qui nous est imparti, s'achève. Hein. Moi, j'ai passé un super moment
mais
avec
moi,
vous. Là,
moi
hein.
Aussi.
Merci.
Là, je vais me précipiter au cinéma.
Oui. Oui. Voilà.
Comme
et venez
tous,
voir Arco
sûr.
Aussi.
Mais précipitez-vous hein au cinéma. Arco, oui.
Arco.
Allez.
Hugo, bienvenue. Excellent.
Au revoir et à très bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.